S'il vous plaît.
Bon, Jean-Paul, tu respectes les règles. C'est toi qui les as fixées, alors tu vas les respecter.
Ces anarchistes.
Attends, on va attendre. Non. Ou alors l'avant. Vous l'avancez. Bien, s'il vous plaît. Alors, avant que... On va d'abord attendre que tout le monde s'installe tranquillement.
Vous êtes pressé ?
Hein ? Non, non, mais il faut attendre.
Sans passage,
hein ? Oh, ben, jamais. Le pire, c'est... Le pire, c'est les profs.
Bah,
parce
oui.
Parce qu'ils ils font... Et bien, oui, ils font ce qu'ils reprochent à vos élèves. Bien, vous remarquerez que, ayant entendu des critiques montantes sur les cadences infernales, j'ai fait prolonger de plus de 5 minutes la pause. Donc.
Merci.
Bien. Donc, je passe la parole à Jean-Paul Bentière pour une petite annonce technique, apparemment.
Voilà. Voilà. Donc, une petite annonce technique. J'ai encore des bons pour le repas. Si je les ai, c'est que certains parmi vous ont fait passer un chèque et sont pas venus. Et il faut qu'ils viennent, les gens qui ont fait passer un chèque, il faut qu'ils viennent me voir pour avoir leur bon pour le repas. Ça, c'est le premier point technique. Alors, pendant que j'y suis, pour les personnes qui n'avaient pas envoyé de chèque, elles pourront aller manger, si elles le désirent, à la cafétéria du Resto U. Voilà. Pour les personnes qui ont fait passer le chèque, nous irons ensemble manger à la mezzanine, bien comme il faut. Voilà. Enfin, vous verrez. Le deuxième point, c'est que vous constaterez en sortant qu'il y a une boîte qui ressemble à une boîte dans laquelle on peut mettre un petit billet... ou plusieurs pièces pour contribuer aux frais de la journée. Voilà. Ben, je vous remercie. Et puis, allez, Pierre.
Bien. Donc, après cette annonce technique et financière, je vais passer la parole à Pierre Gallon. Donc, Pierre Gallon est un ancien militant de la JOC, puis de la CFTC, puis du PSU, et ensuite de la CGT. Et du Parti communiste. Et donc, il a bien connu cette période. Et lui aussi, il est donc responsable de l'Institut CGT d'Histoire sociale. Il publie un certain nombre d'articles, de textes dans la revue de cet institut. Et donc, il va intervenir ce matin sur l'UDCGT face à la crise du bassin stéphanois 1964-1985. Donc, je lui laisse la parole pour 20 minutes.
Oui. Moi, j'ai commencé à travailler en 1955 à la CFL et j'ai arrêté de travailler, on va dire, avec des guillemets, en 87. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler officiellement à 50 ans et 6 mois. J'ai fait autre chose après, hein, ne vous inquiétez pas. En 63, donc sur cette période, c'est la fin de la guerre d'Algérie et en même temps, c'est la grève des mineurs. La CGT s'est bagarrée depuis 54 contre la guerre d'Algérie. Je dis CGT, j'étais à la CFTC à l'époque. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et dans les années 62-63, on a été amené, y compris, à monter des milices pour surveiller les boîtes comme Creusot-Loire, comme la CFL, où on avait peur des interventions de l'OAS, etc. Donc c'est une période relativement sévère. Moi, je me baladais armé à la CFL à cette époque. La grève des mineurs, la CGT a beaucoup soutenu, bien sûr, la grève des mineurs, c'est évident. Mais je me rappelle surtout de la solidarité financière qu'il y a eu à cette époque, parce qu'on avait réussi pratiquement à payer les salaires des mecs qui étaient en grève. Et la solidarité s'était organisée, y compris dans les quartiers, avec l'organisation pour les familles, pour les gamins, de manger dans les cantines scolaires, etc. Voilà. Donc c'est une période qui est importante, et c'est un bon démarrage. On est dans une période de développement économique et industriel dans la Loire, qui monte en emploi et en population jusqu'en 1975. La CFL, créée en 1953, va se développer tout en structurant, si vous voulez, sur deux aspects, la sidérurgie d'un côté et la mécanique lourde de l'autre, hein. Avec une dimension nationale et internationale, sur l'automobile, bien sûr, le naval, les chemins de fer, sur le nucléaire, déjà, sur l'équipement lourd, d'une façon globale, hein. Et puis, je le précise toujours, parce que c'est important, c'est toujours des commandes d'État, soit des États français, soit des États ailleurs. Hein. Alors, j'ai beaucoup entendu la montée des luttes de 63 à 68. J'ai récupéré, moi, toutes les luttes qui ont effectivement été dans cette période-là, mois par mois, jour par jour. Et effectivement, on se rend bien compte qu'il y a une montée en 64. Déjà, c'est le début de la grève de la SFAC, hein, qui a été citée tout à l'heure, où, bien sûr, Maurice Combes joue un rôle important. Mais il n'y a pas que Maurice Combes. Mais c'est quand même, ça marque la population stéphanoise d'une façon globale, parce que c'est le plus gros, ça va être le plus gros licenciement collectif jamais envisagé j'allais dire presque nationalement, dans la métallurgie. On ne va pas être loin de 700 licenciés à la SFAC, et qui sont essentiellement, et je tiens à le souligner, dans la partie productive. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr quelques techniciens et administratifs qui sautent, mais le plus gros, c'est les emplois de production. C'est important de souligner aussi. Alors, la lutte ouvrière va continuer à monter, comme ça a été dit déjà, jusqu'en 68. C'est difficile. Je le dis gentiment, mais il n'y avait pas un mois sans une retenue sur les salaires. Et c'est vrai que ça marque, parce que, effectivement, c'est les choses qui marquent très, très, très concrètement. Alors, c'est les mines, c'est la métallurgie, c'est le textile, c'est l'agroalimentaire. Et puis, il y a, mais y compris, on n'oublie pas, j'allais dire, nos responsabilités, j'allais dire, globales, et en particulier avec la paix au Vietnam en fin 68. Les grèves se multiplient en 68, bien sûr, mais je ne vais pas m'approfondir trop sur 68. Les grèves se multiplient en 68, Denis Firmini, les Ben Marel, les PTT, les chapeaux à Chazelle, Otzer Outillage, ACFL, je les cite comme ça, Cécile à Montbrison, Marel à Rive-de-Gier, les RCT à Rouen. Oui, oui, c'est bon. Le déclenchement des grèves en 68, c'est assez amusant aussi, ça fait toujours partie de la petite histoire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre de grève pour le début des grèves en 68. Et ça ne veut pas dire qu'elle était spontanée. Et si j'ai dit qu'effectivement les luttes avaient continué à monter, c'est bien la preuve qu'il y avait effectivement un mécontentement profond devant, ce que je rappelle, un développement économique important, donc des résultats importants. Donc les revendications portaient sur les salaires, sur le temps de travail, sur les retraites déjà, bien sûr. Et voilà, c'était du concret concret. La reconnaissance, alors ça va se traduire donc pour en 68, la reprise du travail du 13 au 17 juin, qui a été dure à faire la reprise du travail. Hein. J'étais un de ceux, comme par hasard, qui était contre la reprise, hein, parce que ça avait donné un élan et une réflexion politique telle qu'on attendait autre chose que les aspects 30% d'augmentation des salaires, où il y a eu des choses aussi importantes, comme la reconnaissance de l'organisation syndicale à l'entreprise, qui est une chose importante. Et puis, c'est à partir de là qu'il y a des administrateurs élus dans les grosses boîtes. Je vais finir, moi, comme administrateur de la CFAS, la Compagnie française des essais spéciaux, avec mon camarade Forgeard, bien connu, que vous avez retrouvé à RDS il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais c'est un petit peu de l'anecdote. Je voudrais arriver sur un point qui me paraît important, c'est le financement de l'industrie. Je pense que c'est important à signaler parce que ce financement de l'industrie, il est très caractéristique sur la Loire. On avait l'habitude d'une industrie, je parle surtout de la métallurgie, hein, bien sûr, où c'était des patrons qui étaient des techniciens. Alors je vous cite, hein, Oetzer, Jackson, Barouin, Marel, Schneider, c'est des mecs qui sont des métallurgistes, qui connaissent leur métier, qui sortent de l'école des mines, pour la plupart. Et on est dans... Les finances sont à part. Et pour l'anecdote, encore une fois, vers les années 66 à peu près, notre patron chez Barouin, qui s'appelait Larawar, qui est un homme bien connu sur Saint-Étienne, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui nous annonce en CE qu'il est remplacé. Alors il nous dit, écoutez, je m'excuse, mais je ne peux pas en dire plus ici. Mais si ça vous intéresse, vous venez dans mon bureau, je vous expliquerai. On a été dans son bureau. Et là, il nous a dit tout de suite, écoutez, je vous avertis, ceux qui me remplacent, c'est des bandits. C'est des bandits. Alors, on n'a pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, bien sûr. Et puis, on a mis un moment, on a mis quelques années à comprendre ce qu'il avait voulu nous dire. C'est qu'effectivement, ceux qui le remplaçaient, ce n'étaient plus des techniciens, c'était des financiers, point. Et là, on voit très nettement la différence. On va voir très vite la différence, étant donné que jamais on va pouvoir reparler des problèmes, justement, industriels sur lesquels, nous, on avait toujours des propositions. On va continuer à faire des propositions de développement de la sidérurgie, par exemple, pour le marais. On va intervenir pour avoir la coulée continue, par exemple, au dernier moment, y compris Chirac, qui va nous promettre la coulée continue, d'ailleurs. Ça aussi, ça fait la partie de la petite histoire, mais ça veut dire que la financiarisation devient importante et elle va conduire à une nouvelle organisation du travail, hein, avec un recentrage sur le métier, vous rappelez, qui allait conduire... Alors, c'est assez amusant parce qu'il faut... je m'excuse d'être un peu précis là-dessus. On a mis en place la comptabilité analytique à ce moment-là, dans ces années-là. Et c'est vrai que cette nouvelle chose était une très bonne chose parce que ça permettait de disséquer les opérations, de voir celles qui rapportaient, celles qui étaient rentables et celles qui ne l'étaient pas. Sauf que ça permettait aussi autre chose, c'est d'isoler des morceaux et de les externaliser. Et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître l'externalisation dans les grosses entreprises. On a commencé par externaliser les services. Je me rappelle les premières grèves qu'on a faites. C'était pour défendre les femmes de ménage. Bon. Mais les femmes de ménage, c'était un service qui était dans la boîte, qui a été externalisé. Après, ça a été l'entretien des fours qui partaient à l'extérieur. Et puis, petit à petit, c'était des morceaux de production. Et on voyait arriver dans la boîte des mecs qui étaient chargés de buriner les lingots, de faire de la préparation, si vous voulez. Donc, petit à petit, on est sernalisé. Et ça, ça va avoir une importance tellement grande que cette méthode de travail va être appliquée, bien sûr, dans l'industrie, au départ. Elle va conduire à l'externalisation, à la disparition des grosses boîtes, hein, puisqu'on va passer à une période où on était à une vingtaine de boîtes de plus de 1000 dans la région stéphanoise. On passe à zéro, bien sûr, aujourd'hui, mais on est passé, en 84, on devait être de trois boîtes à peu près de plus de 1000. Hein. Aujourd'hui, les boîtes de 500 dans la Loire, dans la métallurgie, c'est à remarquer, quoi. Il doit y avoir les aciéries de Fort, par exemple, et puis Marais la Rive-de-Gier qui doit être frôlée, enfin, voilà. Mais c'est vraiment pas du même niveau. Donc ça va s'appliquer dans l'industrie, et puis petit à petit, ça va s'appliquer aussi dans le secteur public, parce qu'ils vont bien se réaliser. Tout le monde va bien comprendre que c'est intéressant. Et aujourd'hui, je me rappelle à un stage CGT avec la santé, où les infirmières me disaient, mais non, nous, ça ne peut pas nous arriver. Et puis, en fait, dans l'hôpital, dans la santé, c'est bien si c'est appliqué aujourd'hui, avec un recentrage sur le métier qui est la salle d'opération, et puis tous les services qui sont le plus possible externalisés. Voilà. En 70, on est donc dans une période de continuité. On continue à centraliser la production. Hein. La création de Creuse-Loire, qui rassemble, c'est important, hein, on continue à rassembler le capital et la production. Le Creuse-Loire qui va rassembler la sidérurgie fine, la mécanique lourde, et je plaisante un petit peu, mais c'est vraiment un espoir, parce que quand la mécanique est en panne à cause du dollar, c'est la sidérurgie qui profite, et inversement, quand le dollar baisse, et ben c'est voilà. Donc c'est un espoir du point de vue, j'allais dire, équilibre, et on peut se demander pourquoi ça n'a pas tenu. Donc on est concerné par, je reprends, hein, les pièces pour l'automobile, le nucléaire et l'EDF, y compris l'EDF hydraulique, bien sûr, l'exploitation pétrolière, les chemins de fer, réseaux et machines, les constructions d'usines, bien sûr, métallurgiques, chimiques, agroalimentaires. On est capable de tout faire, quoi. Hein. Je plaisante, y compris un truc pour aller sous les mers. Mais ça, c'est une plaisanterie. Le financement de l'industrie va se traduire en particulier par un détachement total de l'entreprise avec les besoins sociaux. Alors ça me paraît important aussi à dire, parce que, si vous voulez, ce qu'on a critiqué dans le paternalisme, effectivement, de l'époque... On pourrait presque dire que ça serait presque un bien aujourd'hui. Parce que quand on prend Baroin ou Schneider, Creusot, c'est encore plus significatif, Schneider s'occupait de tout, quoi, de l'école, y compris de l'église, hein, comme chez Baroin d'ailleurs. La première église au Marais, qui est à la place de la CAPEB, c'est quand même... pas loin Baroin qui finance, quoi. Donc voilà, l'entreprise a un rôle, ce soin sur le logement, etc., bien sûr. Ce rôle politique, je dis bien ce rôle politique, il va être repris par les organisations syndicales à travers les gros comités d'établissement. Et pendant, j'allais dire, un certain nombre d'années, c'est vrai que c'est très court, pendant un certain nombre d'années, la CGT, je parle de la CGT, va jouer un rôle important dans le logement, dans la culture, dans le sport, dans l'éducation professionnelle, bien sûr, dans la formation professionnelle, dans l'économie, parce qu'on va se mêler aussi d'économie, comité d'expansion, par exemple, qui est créé à peu près dans cette époque-là. On suit les problèmes avec la création d'ELO, au hasard, de cibles, au hasard, CIBC aujourd'hui. C'est à peu près cette époque, il y a 25 ans, puis on a fêté les... voilà. Donc on va avoir un rôle politique comme ça. La fin de la montée, alors je dis bien la fin de la montée industrielle de la Loire, va se passer entre 78 et 74. Je raccourcis, effectivement, mais avec point par point, on va continuer à monter et à grossir sur tous les plans et sur tous les morceaux de la construction mécanique. Après 75, effectivement, c'est là qu'à partir de ce moment-là que vont éclater toutes les conflits avec une dominante très 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 défensive. Alors je les cite très rapidement. Bien sûr, on connaît plus Manu France, mais il faut rappeler Peugeot. Il faut rappeler, moi j'avais mis CTA, mais c'est J.B. Martin qu'il faut dire. Prozine, Saint-Chamond, au hasard. Les RCTA, Rouen. Effectivement, la CGT va entourer ces luttes d'une façon importante. On va être présent partout, mais on va se retrouver, quelqu'un l'a dit déjà, devant une volonté, ou du moins une absence de volonté politique, qui fait que les décisions économiques vont continuer à se prendre en dehors des de toute responsabilité politique, aussi bien au niveau local, départemental, régional que national. Voilà, c'est là où je pense que ça pose question. En 68, on a manqué de relais politique, c'est vrai. Aujourd'hui, je repose la même question. On a peut-être bien une activité encore politique de propositions. Je ne parle pas des propositions qu'on a faites, 21 propositions en 84, qu'on a redéposées en préfecture en 89. J'y ai participé pas mal, et qui étaient des propositions strictement industrielles. Il n'y a pas de réponse des pouvoirs, parce qu'ils sont dans l'incapacité de répondre. C'est uniquement le pouvoir économique qui prend la décision. Je pose la question... Qui est-ce qui a pris la décision de l'éclatement de Creuse-Loire ? J'attends une réponse précise. Et aujourd'hui, qui est-ce qui est capable de prendre une position pour une décision, quelque chose qui pourrait organiser, par exemple, la métallurgie dans le département de la Loire, par exemple ? C'est des questions.
Bien.
Merci beaucoup.
Donc, je passe la parole à Michel Zancarini-Fournel.